invité Raymond Abellio dans son parti pris en 1975, une seule émission n'a pas suffi pour faire le tour de la question. De son vrai nom Georges Soulès, Raymond Abellio est un philosophe gnostique questionnant le sens et les enjeux de la connaissance. Après une traversée de l'ésotérisme, il se lance dans une phénoménologie transcendantale et questionne la structure absolue. On le suit pour cette première partie, mot à mot.
Bonjour, comme chaque vendredi, un parti pris mot à mot avec aujourd'hui Raymond Abellio. Raymond Abellio, quelle est la vérité qui vous gêne le plus ?
Je pourrais vous répondre, pour commencer, que c'est votre question qui me gêne. Parce que pour un homme véritable, il n'y a pas de vérité, en fait, qui devrait être gênante. Et je pourrais vous répondre aussi par une autre question qui a traversé les siècles, qu'est-ce que la vérité ? Mais je ne veux pas abuser avec cette question, donc je sens bien la portée personnelle. Qu'est-ce qui importe à un homme, finalement ? Je ne dis pas qu'est-ce qui le gêne, qu'est-ce qui le préoccupe le plus. C'est en fait l'idée qu'il se fait de lui-même. Après une vie plus ou moins longue, des expériences plus ou moins contradictoires, une réflexion sur ces expériences, tout homme arrive, en tout cas je suis arrivé à une certaine idée de moi-même, à dégager ce que j'appellerais la vérité de mon être. Et je tiens à cette vérité. Voyez, j'emploie votre vocabulaire par force. Je tiens à cette vérité et je voudrais lui être fidèle, en quelque sorte l'assumer dans toutes les circonstances de ma vie. Et notamment dans la circonstance la plus décisive, la plus importante de la vie, qui est la mort. En d'autres termes, pour moi, c'est finalement le problème qui me préoccupe le plus, je ne dis pas qui me gêne, qui me préoccupe le plus, c'est d'assumer ce que je crois être la vérité de mon être au moment de ma mort. Voilà. C'est ça le problème.
Et en quoi cette vérité de votre être peut vous aider face à la mort ?
Bien justement, je me suis toujours posé la question de savoir si la vie, construite comme on l'a construit, comme j'ai construit la mienne, pouvait m'aider. Et si par conséquent elle était réellement authentique, car c'est la mort qui la juge. C'est une, vous savez, c'est une vieille parole qu'on est, damné ou pardonné, ou sauvé à l'instant de la mort, et uniquement à ce dernier instant. Il est effectif que la plupart des hommes se rattachent à des doctrines de soutien ou de consolation. Un homme comme Montaigne, par exemple, ne voulait pas voir la mort fixement. Il disait, il a écrit, qu'il souhaitait avoir la mort la moins préméditée et la plus courte, la plus prompte. Par conséquent, ne pas avoir conscience de sa mort. Au contraire, les doctrines traditionnelles, les doctrines de sagesse, notamment les doctrines orientales, considère volontiers qu'il faut être préparé à sa mort et la voir venir, de façon à avoir le temps de méditer sur elle et de l'affronter en toute conscience. Il y a un sutra bouddhiste, notamment, qui dit ceci, qu'il faut avoir, que le mieux, la mort idéale, c'est d'avoir un signe de sa mort une semaine avant, à peu près, et ensuite, de partir sans trop de souffrance, l'esprit serein et libre de tout attachement au corps, avec le moins de souffrance possible, car c'est aussi ça le problème, n'est-ce pas ? Comment réagir devant une souffrance physique imprévue ? Mais les bouddhistes ajoutent, ce même sutra déclare que c'est l'idéal de tous les bouddhistes, une telle mort, mais que sa réalisation est loin d'être aisée. Ils sont par conséquent très modestes, n'est-ce pas ? Ils laissent la part à l'imprévisible.
Est-ce que vous avez pensé à ce que serait cette semaine-là ?
Oui, j'y ai pensé. Je pensais même beaucoup à ça maintenant que j'atteins un certain âge et où la mort devient non pas la mort des autres, mais ma propre mort, n'est-ce pas ? Le concept de mort cesse d'être un concept pour devenir une réalité en quelque sorte vivante, n'est-ce pas ? Très paradoxalement, c'est ma mort qui est en jeu. Ce n'est pas la mort spectacle, ce n'est pas la mort des autres. Et je me suis toujours posé la question de comprendre la mort. Incontestablement, toutes les doctrines religieuses ont voulu être des doctrines de la survie. La notion de survie est une notion universelle, et par conséquent, il est normal que l'homme se raccroche à une doctrine. Je me suis souvent posé la question de savoir si une doctrine mûrement pratiqué, mûrement médité au cours de la vie, pouvait être au moment de la mort un soutien, une aide. Je n'en sais rien, je vous le dis très franchement. En ce qui me concerne, j'ai essayé de me faire une idée de la survie. Je crois à une certaine survie. Mais en cette matière, il y a deux grandes façons d'examiner, d'étudier ou de postuler la suite. Il y a les doctrines orientales et les doctrines occidentales. Les doctrines orientales, en gros, sont basées sur la croyance à la réincarnation. Il faut savoir alors quelle réincarnation. La doctrine chrétienne, la doctrine occidentale, sont au contraire basées sur l'immortalité de l'âme. Ce mot d'ailleurs étant très vague et restant à définir, et essentiellement aussi et surtout sur la résurrection des corps. Or, on ne trouve pas facilement dans les études théologiques chrétiennes, catholiques ou autres, une définition réellement satisfaisante de ces mots. L'âme, qu'est-ce que c'est que l'âme, n'est-ce pas? Comment se situe-t-elle, immortalité de l'âme? Saint Paul dit, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Moi, je suis volontiers enclin à penser à l'immortalité de l'esprit, du principe spirituel, universel, impersonnel. Tandis que l'âme, si j'ai bien compris, dans la conception des chrétiens, c'est une âme personnelle, une âme individuelle, une sorte d'entité globale, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, que le dogme de la résurrection des corps ne fait que renforcer quant à cette croyance à l'individualité subsistante après la mort. Je ne crois pas. Je pense que cette individualité composite qui est la nôtre sur Terre, celle de l'homme extérieur, de l'homme de chair, vaut-elle la peine d'être ressuscité réellement dans cette sorte d'individualité? Je n'en sais rien. Je préfère, là, sur ce plan, la conception que les orientaux se font de l'âme. Les orientaux se font de l'âme, ont de l'âme une doctrine en quelque sorte pluraliste. Il y a plusieurs âmes pour eux, plusieurs étages de l'âme. Les Chinois disent par exemple, il y a 4 âmes inférieures et 3 âmes supérieures. Il y a plusieurs âmes, donc 7, l'homme étant symbolique bien entendu, ils ne les ont pas comptées. Il y a 7 âmes, 4 âmes matérielles et 3 spirituelles, cette décomposition aussi est symbolique. Et les âmes matérielles à la mort suivent au fond le destin du corps. Elles restent attachées par leur côté substantiel, leur relatif côté substantiel, aux différentes parties du corps auxquelles elles étaient attachées. C'est pour ça qu'on dit qu'elles rampent, qu'elles ne se dispersent pas immédiatement au moment de la mort, tandis que les âmes spirituelles, elles au contraire, sont plus subtiles et montent directement vers le soleil. Cela expliquerait d'ailleurs dans une certaine mesure les doctrines spirites, car ces messages spirites, ces messages des morts, sont frappants dans la mesure où ils sont, je ne dis pas vulgaires, si vous voulez, mais très terre à terre, n'est-ce pas? Le mot convient parfaitement bien, comme si après la mort, une certaine partie de l'âme, de la psyché des morts, restait attaché à la matière par une sorte de, comment dirais-je, de conservatisme, n'est-ce pas, d'attraction, d'appétit subsistant, de regret de quitter la terre. Et les messages venant de cette partie inférieure, en quelque sorte, de la personnalité, cela expliquerait que ces messages sont tellement, finalement, peu enseignants, qui contiennent tellement peu de haute philosophie, si vous en êtes frappé, parce qu'il n'y a pas de haute philosophie, il n'y a pas de métaphysique. Voyez, ces doctrines, qu'elle soit réincarnationniste, et là aussi la réincarnation, bien entendu, il ne s'agit pas, selon moi, d'une réincarnation globale, d'une personnalité globale, sauf dans le cas d'être très fruste, n'est-ce pas, ou encore enfantin. Il s'agit là aussi d'une réincarnation partielle, par partie, n'est-ce pas, au même titre que les cendres minérales du corps suivent des cours différents dans telle plante ou tel animal. Dans quelle mesure, au fond, la question essentielle est la suivante, dans quelle mesure ces doctrines qu'on a pratiqué, qu'on a étudié, sur lesquels on a médité longtemps, et actuellement, je dois dire, je médite beaucoup sur elles, n'est-ce pas? J'ai beaucoup médité sur le livre des morts tibétains, par exemple, qui est un livre extraordinaire, non seulement du point de vue même de la métaphysique, mais du point de vue esthétique. C'est une œuvre littéraire remarquable, n'est-ce pas? Très belle. Dans quelle mesure ces œuvres et la méditation sur elles peut-elle aider au moment du passage de la mort? Mais je n'en sais rien. Honnêtement, n'est-ce pas? Vous êtes là devant le problème ultime, qui est le problème de la souffrance physique. Or, la souffrance physique, chez un philosophe, chez un intellectuel, est, à mon avis, je dis à mon avis parce que je n'ai pas d'instrument de comparaison, incomparablement plus difficile à supporter à cause des puissances de l'imagination, des puissances de l'intelligence, que chez un animal ou chez un homme très fruste, chez un sauvage, par exemple. Il est, selon moi, probable que la souffrance d'un sauvage, d'un homme intellectuellement fruste, ou d'un animal, est incomparablement moins intense que celle d'un homme intelligent, d'un homme habitué à la méditation sur lui-même. L'intelligence, là, est évidemment quelque chose qui vous désarme. Hamlet l'a constaté avant moi, n'est-ce pas?
Vous avez peur dans cette dernière semaine de souffrir physiquement?
Je me pose la question. J'ai pas mal souffert physiquement dans ma vie. Incontestablement, les puissances de l'esprit sont désarmées à ce moment-là dans une large mesure. Et j'espère, encore une fois, là, je ne fais pas de pari, j'espère tenir le coup à ce moment-là et pouvoir assumer lucidement cette souffrance.
Vous parlez donc de jugement, vous parlez aussi de vérité, mais cette vérité, la vôtre, quelle est-elle?
Cette vérité, c'est que je me dis qu'il faut remplir pleinement sa vie pour arriver à la mort le plus sereinement possible. Au fond, le secret de la mort, à mon avis, dans la mesure où je peux en juger déjà à l'avance, c'est d'avoir rempli pleinement sa vie, de partir sans regret, de se dire j'ai fait mon œuvre. Par exemple, en ce qui me concerne, je me dis j'ai un certain nombre de livres à écrire, je voudrais dire encore un certain nombre de choses dans une certaine forme. Eh bien, si je le fais, si je réalise, si j'ai rempli cet objectif, je me dis je partirai d'une façon plus sereine que si je ne l'ai pas rempli. Je m'accrocherai moi, si vous voulez, à ma guenille, n'est-ce pas? Je dis à ma guenille, t'as fait ton boulot, t'as fait ton travail, maintenant laisse l'esprit partir. J'ai, je dois dire, chez mon maître spirituel, assisté à une mort de cet ordre, où l'homme complètement détaché est parti sereinement, n'est-ce pas? J'ai eu cette impression.
C'est-à-dire que le message que vous transmettez, enfin sans apporter à ce terme une signification disons, trop valorisante, ce message-là est essentiel dans le jugement que vous portez sur votre vie.
Ah, pour moi, oui, n'est-ce pas? Je considère que j'avais une mission, j'avais à dire un certain nombre de choses, à découvrir peut-être un certain nombre de choses, d'une façon d'ailleurs balbutiante et incomplète, bien entendu, la porte reste ouverte, il n'y a rien de fermé dans tout ça, n'est-ce pas? Rien de définitif. Mais je considère que j'ai encore un certain nombre de choses à dire d'une certaine façon, n'est-ce pas? Aurais-je le temps de le faire? Je n'en sais rien. C'est ma question. Et cette question pose en effet le problème de ma sérénité au moment de la mort. Je ne suis pas encore suffisamment détaché, si vous voulez, des œuvres terrestres. Auraient-elles pour objet la spiritualité, ce qui est le cas, enfin, dans une large mesure, n'est-ce pas? Je n'en suis peut-être pas encore suffisamment détaché. Il me reste à me détacher complètement et à me dire, après tout, un livre ou deux de plus ou de moins, quelle importance? Je me pose encore la question, voyez-vous. Je suis encore un homme de chair, malheureusement.
Vous avez parlé de méditation. Est-ce que, justement, la pratique actuelle de la méditation est une façon pour vous de préparer ce détachement de la mort?
C'est incontestable. C'est par la méditation qu'on arrive à un détachement de plus en plus intense, de plus en plus réel, de moins en moins mensonger, si vous voulez. Il est facile de dire qu'on est détaché. C'est moins facile de l'être, en réalité. C'est tout le problème, n'est-ce pas? Être, la vérité de l'être. C'est ça. Et c'est ce que Heidegger appelle l'être pour la mort, n'est-ce pas? Bien, que cet être pour la mort soit réellement d'une authenticité totale.
Et au moment où vous avez parlé de méditation, vous avez presque immédiatement parlé d'esthétisme. Il y a un lien entre les deux?
Il y a un lien incontestablement, n'est-ce pas? Dans la mesure où je ne suis pas encore complètement détaché du style, de la forme, n'est-ce pas? Je ne vis pas encore dans le sans-forme. Et je me suis posé une question, c'est également une question que je pose, moi, c'est la question de l'art, si vous voulez que je me la pose encore. Est-ce que l'art est supérieur à la mort, n'est-ce pas? Est-ce que les préoccupations artistiques doivent l'emporter dans une certaine mesure sur les préoccupations spirituelles? C'est une question ouverte pour moi, voyez-vous. Je vais très loin en disant cela. Je considère que l'art est salutaire, l'art est salvateur, l'art est rédempteur. Seulement cela laisse intact le problème de la mort, bien entendu. Mais actuellement, je considère que toute vérité, même méditée dans le plus profond silence, doit essayer de trouver une forme d'expression communicable. C'est au fond la vocation d'un occidental, beaucoup plus que d'un oriental, que je vous exprime là, n'est-ce pas? C'est un problème ouvert pour moi. Et cette énigme de l'art, de la mise en forme de la pensée, je parle du style, n'est-ce pas? Je parle de l'art littéraire, de l'art de la communication verbale par les mots, n'est-ce pas? Non pas des arts plastiques. Mais pour moi, c'est un problème ouvert, et c'est tout le problème de la rédemption par l'art, n'est-ce pas?
Et est-ce que la forme, pour vous, peut justement permettre de découvrir plus facilement la vérité?
Il y a dans la recherche de la forme une ascèse incontestable, n'est-ce pas? Une ascèse particulière qui, selon moi, est extrêmement forte. Et cette ascèse de l'art, de l'esthétique, est quelque chose d'incomparable à toute autre ascèse. C'est très différent, n'est-ce pas? Et je crois que les Occidentaux sont voués à ce genre d'ascèse-là, parce que le yoga de la connaissance y est confronté avec le yoga de l'action, ce qui est toujours l'ambiguïté, n'est-ce pas, la contradiction même de l'occidental.
Face à la mort, qu'est-ce qui vous semblera essentiel, enfin, dans l'idée que vous en avez aujourd'hui? Ce que vous avez pu transmettre en tant que message dont on parlait, ou ce que vous avez fait en tant qu'homme?
Oh ben, les deux se confondent pour le moment, n'est-ce pas? Ce que j'ai fait était plein de contradictions. Je renie, si vous voulez, ou j'aliène, ou je supprime ce que j'ai pu faire, les paroles que j'ai pu prononcer avant ce que j'ai appelé ma seconde naissance. Je l'ai expliqué dans mon dernier livre, n'est-ce pas?
C'est-à-dire la rencontre de Husserl, c'est ça?
La rencontre de mon maître spirituel, en 43, exactement. À partir de ce moment-là, j'ai mis la politique en question, et le militantisme en question, et incontestablement, ma vie s'est coupée en deux, n'est-ce pas? J'ai renoncé à beaucoup de choses, mais sans difficulté d'ailleurs, sans aucune espèce de sacrifice. Ça s'est fait tout naturellement. Je me suis amputé, n'est-ce pas, d'un certain nombre de membres, devenus membres fantômes depuis, et véritablement fantômes, qui nous font plus souffrir d'ailleurs, n'est-ce pas? C'était le moment capital de ma vie. Et ce que j'ai pu faire avant n'entre pas en ligne de compte dans mon bilan, n'est-ce pas, bien que j'en prenne bien entendu la responsabilité. C'est ce que j'ai fait après qui compte. Ce que j'ai fait après se confond à ce que j'ai pensé, ce que j'ai écrit. Vous savez, je n'établis pas entre la pensée et l'action une différence de nature. Toute pensée est une action. Les pensées s'inscrivent dans l'invisible et ne meurent pas, n'est-ce pas? Ce sont des sortes d'entités qui se développent en dehors de vous peut-être, mais dont vous êtes quand même le centre, n'est-ce pas? Et qui restent quand même centrés sur vous. Il y a là une action, incontestablement.
Tout à l'heure, à propos de la mort ou de l'après-mort, vous avez évoqué le soleil. C'est un symbole?
C'est un symbole et en même temps plus qu'un symbole, n'est-ce pas? Le soleil est quand même, a été longtemps dans les religions, vous le savez, n'est-ce pas? Le symbole de la divinité, n'est-ce pas? De la divinité supérieure. Il marque la direction du haut, n'est-ce pas? Il marque la direction du jour, la direction verticale vers le haut, vers le zénith, n'est-ce pas? C'est-à-dire la direction vers laquelle monte l'esprit, tandis que la matière minérale, le corps, au contraire, obéit à la loi de l'entropie, c'est-à-dire à la loi du mouvement descendant. Il va donc vers la terre, si vous voulez. Il y a entre le soleil et la terre la même dialectique qu'entre l'esprit et le corps.
Entre la terre et le soleil, où se situe l'amour?
Il se situe partout, n'est-ce pas? Il est le courant ascendant et descendant, si vous voulez. Il est des deux, n'est-ce pas? Il est le processus d'ascension et d'involution qui relie le soleil et la terre. De façon bi-univoque, dans les deux sens, n'est-ce pas? Selon moi. Maintenant, l'amour, lui aussi, est soumis à la dialectique ascendante, bien entendu. Il y a l'amour charnel qui peut se sublimer en amour spirituel, mais sans amour charnel, il n'y a pas d'amour spirituel. Selon moi, enfin, l'amour spirituel est moins intense. La véritable intensité absolue, si l'on peut employer ces mots, n'est-ce pas, de l'amour, se situe dans la conjonction de l'amour charnel et de l'amour spirituel.
Qu'est-ce que l'amour charnel peut apporter à l'amour spirituel?
Il apporte un banc d'épreuves, tout simplement, sans lequel l'amour spirituel se perdra dans la sublimation, dans la billevesée ou l'idéalisme, n'est-ce pas? Il lui apporte le banc d'épreuves comme la terre, d'ailleurs. La terre est le lieu de la contradiction. C'est là qu'est le lieu de la discorde et de la nécessité dont parle Héraclite. Si vous voulez, s'il n'y avait pas de terre, s'il n'y avait pas d'obstacle devant vous, il n'y aurait pas de saut, il n'y aurait pas de montée. C'est l'obstacle qui implique la montée.
Mais quel est l'obstacle dans l'amour charnel?
Ah ben, c'est la dualité des sexes. C'est le fait que vous êtes en présence d'une femme et que vous n'êtes pas le maître total du jeu. Vous avez une femme en face de vous, par conséquent, un obstacle. Qu'on le veuille ou non, il y a une guerre des sexes. Et attention, je n'employais pas le mot de guerre au sens où il faut détruire l'adversaire. Au contraire, il faut l'absorber, il faut le convertir. Car en fait, la véritable féminité n'est pas la féminité extérieure, à la limite, à la fin de la dialectique, c'est la féminité intérieure. Le processus du Christ, c'est de développer en lui la féminité qu'il n'a pas au début. Tout le processus de la montée christique est un processus de féminisation du Fils. C'est capital, n'est-ce pas, ceci pour moi.
Ce qui veut dire que pour vous, le Christ aujourd'hui pourrait être le symbole de tout un mouvement de promotion de la femme, entre guillemets.
Vous savez, ça a été déjà dit. On a voulu que le Saint-Esprit soit féminin, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des mots, selon moi, quand ils ne sont pas soutenus par une philosophie réellement bien déduite, bien réglée, n'est-ce pas? Mais incontestablement, il y a chez le Christ un mouvement de féminisation intérieure, tandis que la féminité virile, attention, est essentiellement extérieure. C'est un comble de chaos, n'est-ce pas, selon moi, la féminité virile, attention.
Vous parlez à propos de ce rapport donc charnel, vous parlez de l'homme maître face à la femme, la réaction de maître. C'est celle que vous avez éprouvée?
Non, absolument pas, n'est-ce pas. Il n'y a pas de réaction de maître ou d'esclave, il y a une relation...
Comme premier réflexe.
Une relation duelle, n'est-ce pas, bien entendu au début, n'est-ce pas, l'homme est conquérant, la femme est passive. Mais en réalité, ceci est une superstition pure et simple. Il y a de l'actif et du passif chez l'homme, et il y a du passif et de l'actif chez la femme. Chez la femme, le passif devient actif dans la dialectique, et chez l'homme, l'actif devient passif. C'est pour ça que je parle de féminisation de l'homme. Au sens de cette volonté conquérante tournée vers l'extérieur, se transforme au cours de la montée spirituelle en volonté conquérante tournée vers lui-même, et par conséquent, aux yeux du monde, en passivité. En véritable féminité intérieure. Voyez-vous, l'homme est double, la femme aussi. C'est la dualité du passif actif dans un cas et de l'actif passif dans l'autre. Et la catastrophe du point de vue dans les discussions habituelles, banales, n'est-ce pas, qu'on a sur ces thèmes, c'est qu'on fait de l'homme et de la femme deux entités séparées, n'est-ce pas? Tantôt l'un objet, l'autre sujet, réciproquement. On les divise pas, on les dualise pas. En réalité, ce sont deux entités duelles l'une et l'autre. Et vous avez affaire là, alors, un problème capital qui est un problème de quaternité et non pas de dualité. Toutes les théories de la connaissance depuis 2500 ans ont opposé la dualité de l'objet et du sujet. Elles sont forcément enfermées dans une impasse. Il n'en est jamais rien sorti, sauf des synthèses verbales. En réalité, la dialectique est double. Elle n'oppose pas l'objet et le sujet. Auquel cas, il n'y a pas de dialectique, car en fait, la contradiction est immédiate et on est dans une impasse, je le répète. En vérité, tout tourne sur une double contradiction. Et la nouvelle logique, d'ailleurs, dont je parle souvent, c'est une logique de la double contradiction croisée. Il y a crucifixion de l'homme sur la femme, des deux pôles de l'homme sur les deux pôles de la femme. Comprenez-vous?
Ce qui veut dire que l'acte sexuel lui-même, dans son aboutissement, est un symbole.
Ah, c'est un symbole, oui, mais enfin, c'est quand même une réalité à tous les niveaux. Et encore une fois, c'est par la méditation sur l'acte sexuel et ses difficultés et ses réussites que l'homme monte, et la femme aussi, bien entendu. Quand je parle de l'homme, je parle du genre humain en général, n'est-ce pas? C'est par la méditation sur la difficulté de l'acte que le sexe établit avec la conscience une relation dialectique, dans les deux cas, chez l'homme comme chez la femme.
Et la 16 par rapport à cet acte
sexuel. Et la 16 consiste justement non pas à supprimer l'acte, mais à le comprendre. Il y a une assaise intellectuelle et spirituelle qui consiste à universaliser l'acte, à ne pas voir l'homme et la femme comme deux êtres séparés, individuellement clos et fermés sur eux-mêmes, égoïstement, mais à les voir comme, justement, symbole de l'humanité totale et du monde total. Toutes les doctrines de ce qu'on appelle la sublimisation du sexe, notamment le tantrisme, reposent sur l'universalisation des concepts. Attention, l'universalisation, non pas simplement dans un mode de réflexion ou de méditation intellectuelle, mais dans l'acte vécu. Autrement dit, voir l'acte d'amour comme un acte de messe, un véritable sacrifice de messe, n'est-ce pas? C'est-à-dire, jonction de l'homme individuel au cosmos et à Dieu.
Dans cette dernière semaine, revenons toujours à ce problème-là, qu'est-ce qui vous aidera le plus? Est-ce que c'est vraiment le message que vous aurez fait passer, ou est-ce que c'est l'amour que vous aurez donné et que vous aurez vécu?
Oh, j'espère bien que le message que j'aurai fait passer ne se traduira pas par des titres de livres. Vous comprenez, c'est évidemment mon être qui va en être transformé. Si mon être n'est pas transformé par mes livres, si mon être n'a pas été mon être véritable, mais la vérité de mon être ne résulte pas d'une sorte de transformation de mon être même. Si je comptabilise mes livres au moment de la mort, je serai un pauvre type, c'est évident. C'est mon être tout entier qui doit avoir été transformé, parce que les livres, au fur et à mesure qu'on les fait, on les oublie, on s'en détache, on établit de la distance vis-à-vis d'eux. C'est un fait, sans ça, un homme qui va tirer les sonnettes des libraires pour faire marcher ses livres, pour moi, n'est qu'un homme de lettres, n'est-ce pas? Ce n'est pas réellement un écrivain, ce n'est pas réellement un homme véritable. En d'autres termes, ce qui compte pour moi, ce ne sont pas les titres des livres. Si je me les remémore à l'instant de ma mort, mais tant pis pour moi, n'est-ce pas? C'est pas ça qui comptera. C'est ce que je serai réellement devenu en tant qu'être incarné. Ces réalités spirituelles, ces messages spirituels devront être incarnés en moi. Ils ne se traduiront pas par des mots, ils se traduiront simplement par la totalité de mon corps, n'est-ce pas? C'est la totalité de mon corps qui est engagée dans ce processus. Comprenez-vous? Et non pas les titres de mes livres. J'espère me faire comprendre, c'est difficile à expliquer. Mais c'est un acte vécu, la mort. Comprenez-vous? C'est réellement incarné. Au moment de cette désincarnation finale, c'est le moment le plus haut, et le moment ultime de la plus haute incarnation, au contraire. La plus haute sublimation. Tout ça va ensemble, c'est un acte instantané.
Si je vous comprends bien, à côté de l'inquiétude, il y a aussi une attente, je dirais presque un plaisir, à l'idée que vous allez affronter ce combat-là.
Oh ben, vous savez, non, on ne peut pas dire qu'il y a un plaisir au sens vulgaire du mot. Il y a une attente que j'espère être la moins angoissée possible, n'est-ce pas, si vous voulez, que j'espère être la plus sereine possible. Cette notion de sérénité est une notion capitale. On y atteint au cours de la méditation, plus exactement au terme de la méditation, lorsqu'une méditation bien réglée arrive à confiner à ce qu'on appelle la contemplation ou l'illumination. Évidemment, des illuminations, on peut en avoir, on peut en parler d'une façon banale. Être illuminé d'une façon tout à fait réelle, c'est évidemment difficile à dire. On est difficilement objectif dans ces cas-là. Mais incontestablement, on atteint des états de détachement et de sérénité. Il faudrait y atteindre de façon continue. Je crois que, quant à mon second mouvement, j'y atteins. À mon second mouvement, n'est-ce pas? J'atteins à une sorte de détachement. Mon premier mouvement est quelquefois un mouvement d'humeur. J'ai un corps, malgré tout, un corps qui souffre, un corps qui revendique, n'est-ce pas? Bon, dans ce premier mouvement, ce corps peut me trahir. Dans le second mouvement, non, je reprends la maîtrise de mon corps. Mais je voudrais que dans la mort, le premier mouvement et le second mouvement soient synchrones, si vous voulez, n'est-ce pas? Que mon premier mouvement ne me trahisse pas, c'est tout.
Il va être midi et demi, Raymond Abellio, vous n'avez eu le temps de répondre qu'à la première question. Alors je vous propose de revenir la semaine prochaine, nous aborderons la deuxième et la troisième question traditionnelle de ces mots à mots.
C'était Parti pris. Raymond Abellio s'entretenait mot à mot avec Jacques Paugam, un premier entretien diffusé le 9 janvier 1976. Tout de suite, on retrouve la seconde partie de ce Parti pris pour aller plus avant dans la question de l'engagement moral et politique. Raymond Abellio s'entretient avec Jacques Paugam.
Bonjour, l'invité du mot à mot la semaine dernière était Raymond Abellio, mais Raymond Abellio n'a eu le temps de répondre qu'à une seule question, qui est la première question traditionnelle des mots à mots, à savoir quelle est la vérité qui vous gêne le plus. Alors je lui ai demandé de revenir aujourd'hui pour répondre si possible aux deux autres questions qui sont elles aussi tout aussi traditionnelles. Quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps et quel est l'événement de ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir? Raymond Abellio, quelle est pour vous la plus grande hypocrisie de notre temps?
Vous me posez une question bien, bien vaste, on a le choix. Comme dit Madame de Sévigné, je crois l'étoffe est large. Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, je crois qu'une des plus grandes hypocrisies, en tout cas celle dont l'étude m'intéresse, c'est l'emploi continu en politique de mots abstraits. De mots abstraits qu'on coupe de tout contexte, en fait, qui prennent valeur par eux-mêmes, comme les mots de liberté, de paix, d'indépendance, indépendance nationale ou non, n'est-ce pas, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce sont des notions très abstraites qui sont extrêmement difficiles à définir et qui sont au contraire très faciles à manier en tant que mots et qu'on manie à tout propos.
À quoi correspond le maniement de ces mots?
Le maniement de ces mots correspond à l'exercice même de la politique, n'est-ce pas, qui dépend d'une volonté de puissance. Je voudrais faire la critique d'ailleurs de ces mots très sommairement pour bien les situer. Si vous voulez, vous verrez que presque toujours, ils prennent place dans un contexte politique, n'est-ce pas. Liberté, par exemple, bien, vous savez, le mot fameux de ce héros Dostoïevski, Chigalev, n'est-ce pas, j'ai inventé un système où régnait la liberté absolue. Et à ma grande surprise, j'aboutis maintenant dans l'application de la dictature absolue, n'est-ce pas? Bon, la liberté, pour moi, c'est la liberté de l'homme intérieur, c'est pas le libre-arbitre, n'est-ce pas, qui est une notion purement subjective, c'est beaucoup plus profond que ça, le libre-arbitre est une notion naïve pour moi, n'est-ce pas? Bon, le mot paix, c'est la même chose. On parle de paix au moment où, justement, le monde est en guerre. Vous comprenez, plus le monde est en guerre, plus les factions rivales se déchirent, plus on parle de paix. Spinoza l'a dit d'ailleurs lui aussi, c'est, je crois, même le dernier théorème de son éthique. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu de l'âme. Cela situe déjà le plan d'emploi de ces mots, n'est-ce pas? Il y a un plan naïf qui est le plan de la puissance, le plan de la politique, et il y a un plan transcendantal qui est le plan de la connaissance. Et c'est partout pareil, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes aussi, c'est absolument dérisoire, n'est-ce pas? Quand on voit ce qui se passe en Angola aujourd'hui, où on donne la liberté au peuple angolais, n'est-ce pas, son indépendance nationale, on le décolonise, et immédiatement des factions se créent, mais pas des factions véritablement nationales ou nationalistes. Ce sont des factions qui sont manipulées de l'extérieur. On sait bien que l'Angola devient le champ de bataille actuellement des États-Unis, de la Russie et même de la Chine, nous le savons, n'est-ce pas. Bon, indépendance, c'est la même chose. Le mot d'indépendance est un mot qu'on n'a pas le droit de manier, surtout dans un monde où tout est interdépendant. Au moment de la grande révolution épistémologique actuelle, où on passe des systèmes classiques qui étaient des systèmes clos, qu'on pouvait croire autonomes du point de vue de l'utilité, du point de vue de l'efficacité, mais qu'on ne peut plus croire autonomes aujourd'hui, puisque la science se brise, se fissure de toutes parts du point de vue de ses fondements, qu'on est obligé de parler de système ouvert, et même d'interdépendance universelle, d'interdépendance globale. Que vient faire l'indépendance? Comment peut-on parler, par exemple, de l'indépendance nationale d'un pays à l'époque des sociétés multinationales, qui le domine finalement et dont le contrôle lui échappe, que ce pays le veuille ou non? Voilà pourquoi, n'est-ce pas, je crois qu'il y a là une grande hypocrisie, ou si vous voulez aussi une grande naïveté, parce que finalement, on ne peut pas parler d'hypocrisie sans qu'en face, c'est un interlocuteur naïf.
La puissance des uns, c'est la naïveté des autres.
C'est la naïveté des autres, n'est-ce pas? Tout ça se fait équilibre. Et à quoi c'est dû ceci? Ben, c'est dû, si vous voulez, à deux choses, selon moi. C'est dû aux propriétés même du langage, et deuxièmement, c'est dû à la nature même de l'action politique. Du point de vue nature du langage, c'est évident. Le langage est un langage linéaire, c'est un langage articulé qui est linéaire, n'est-ce pas? Comment voulez-vous qu'un langage linéaire puisse se rendre compte d'une réalité qui est forcément globale, qui est forcément universelle, où tout est interdépendant, et on s'en rend compte de plus en plus? C'est vouloir, si vous voulez, rendre compte des profondeurs de la Terre en se contentant de parcourir les méridiens, si j'emploie une image. C'est à peu près du même ordre. Donc, ce langage linéaire, qui est le langage du discours ordinaire, vous ne pouvez, en fait, lui permettre de rendre compte de l'interdépendance globale que par une sorte de, une suite de va-et-vient dialectique. Parce qu'il faut rendre compte des interactions. Et les interactions sont forcément des rétroactions, des feedbacks, comme on dit en cybernétique. Mais pour rendre compte de cette sorte de ces relations d'interaction qui sont globales, il faut faire une sorte de va-et-vient dialectique permanent. Ça surcharge tellement le discours que ça le rend impossible. Et que finalement, l'homme politique qui cherche, lui, l'efficacité immédiate est obligé de court-circuiter tout ça et de continuer, n'est-ce pas, le discours sans s'occuper du va-et-vient dialectique.
Mais au nom de l'efficacité, est-ce qu'on pourrait trouver un autre discours politique?
Je ne le crois pas en ce qui me concerne, n'est-ce pas? Au nom de l'utilité, je ne crois pas, n'est-ce pas? Je dirais même que la politique a tendance à simplifier dans l'autre sens, dans le mauvais sens, et que ce langage linéaire devient en politique un langage ponctuel. C'est le mot, c'est pas la phrase qui devient efficace, c'est le mot tout seul, qu'on hypostasie en quelque sorte, dont on fait une entité isolée, n'est-ce pas? Je vous donne un exemple, peut-être que dans mon expérience personnelle, dans où je faisais de la politique, il y a 40 ans de ça, je faisais des réunions d'unité d'action avec les communistes, vers 1934, je me rappelle. 35, après la déclaration Staline-Laval. Et c'était pas bien entre nous, évidemment, je voulais les attaquer, n'est-ce pas? Mais les attaquer d'une façon qui ne soit pas antidisciplinaire, qui soit relativement feutrée. Et donc, au cours d'une réunion publique, devant, je sais pas, plusieurs milliers d'auditeurs à Romans, dans la Drôme, j'ai déclaré publiquement aux communistes que cette tactique, n'est-ce pas, du Front Populaire, cette tactique sans programme, au fond, n'est-ce pas, qui acceptait, au fond, une unité très peu organique, j'ai voulu l'assimiler au pacte que le Kuomintang venait de passer avec les communistes chinois. Autrement dit, je reprochais, si vous voulez, aux communistes chinois d'avoir passé un pacte avec le Kuomintang, organisation bourgeoise, n'est-ce pas, et contre-révolutionnaire, pour essayer d'éveiller leur attention sur la situation analogue ou vaguement analogue qui était en train de se préparer en France, où nous étions en train de passer, en effet, nous aussi, des pactes, n'est-ce pas, véritablement compromettants avec notre propre bourgeoisie. Inutile de vous dire que évoquer la question chinoise devant des militants de la base à l'époque, c'était évidemment battre l'eau avec un bâton, ça ne servait rigoureusement à rien, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas au courant du problème chinois, moi non plus d'ailleurs, pas très bien. Le communiste qui m'a répondu, qui était le leader du rayon Drôme Ardèche, on s'est pas embarrassé de cette conlocution. Il m'a accroché, d'une façon d'ailleurs hypocrite lui aussi, mais et même cynique, n'est-ce pas, en disant « on nous parle, camarade, d'un prétendu pacte ». Il a dit « on nous parle », il n'a même pas dit « l'orateur socialiste nous parle, on nous parle ». Et il a fait une phrase tout à fait stéréotypé, qui a duré 10 minutes, avec des incidents, n'est-ce pas? Mais il n'y avait pas de point, n'est-ce pas? C'était des virgules, et ça relançait perpétuellement, de plus en plus paroxystique, n'est-ce pas, quant à la tenue même de la période, si vous voulez. À la fin, il a brandi le poing au-dessus de sa tête, il a écrasé le poing sur la table, en hurlant, n'est-ce pas, le seul pacte que je connaisse, camarade, c'est la Russie des Soviets, avec l'accent du midi, la Russie des Soviets. Inutile de vous dire qu'il a été acclamé, n'est-ce pas, et j'ai été écrasé. Ben, un pacte qui équivaut à la Russie, c'est le type même du langage ponctuel, vous comprenez.
Mais cette hypocrisie ponctuelle, est-ce à dire qu'en politique, la vérité, c'est uniquement ce que l'on arrive à faire croire?
Non, parce que quand même, l'efficacité commande, et on ne peut pas mentir tout le temps, ou être hypocrite tout le temps, d'où d'ailleurs le fait qu'il s'agit d'hypocrisie changeante. Et le fait aussi que ce langage évolue. Le même orateur, n'est-ce pas, dans l'opposition et au pouvoir, tient des langages différents. Et c'est fatal. On ne peut même pas lui reprocher au nom de la morale. La fidélité aux anciens propos n'existe pas en politique. On peut prendre tous les hommes politiques qu'on veut, on s'aperçoit que quand ils sont dans l'opposition et quand ils sont au pouvoir, on peut les opposer à eux-mêmes. Et ce qui le prouve, c'est que même ces mots ponctuels dont nous venons de parler, des mots comme démocratie, comme liberté, etc., changent de sens. Ou plus exactement, on est obligé de leur adjoindre des épithètes. On a parlé, les marxistes parlaient par exemple de démocratie bourgeoise. Ils ont mis bourgeoise et ils ont créé démocratie populaire. Ce qui ne fait qu'accentuer l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie au second degré, n'est-ce pas, avec une intensité supplémentaire. J'ai eu là-dessus également une très bonne histoire à vous raconter, si j'ose dire, de mon activité politique dans la Drôme, où j'étais ingénieur. Mon député, le député de mon arrondissement, s'appelait Léon Archimbault. C'était un radical, n'est-ce pas? Et comme vous savez, le mot république, tout le monde était républicain dans la Drôme à l'époque. Le mot république était mis à toutes les sauces. On a inventé, bien sûr, la république laïque et sociale, n'est-ce pas? On a ajouté des épithètes, là aussi, pour renforcer le sens. Archimbault raffinait encore. Il était président du Conseil général. Et tout le monde, tous les journalistes, tous les fonctionnaires locaux venaient assister à la réunion finale, à la réunion finale du Conseil général pour assister à son discours de conclusion. Et ce discours de conclusion était évidemment relativement, quand même, comment dirais-je, pratique, consacré aux questions quand même du département, les routes, le budget de l'assistance, etc. Mais il y avait une tournure politique, il était soi-disant radical de gauche, n'est-ce pas ? Et il finissait ainsi. Quand il avait fini son discours, au début de sa péroraison enflammée, n'est-ce pas, devant une salle pleine, n'est-ce pas, la droite et la gauche, en devant, comme les stalles d'un chœur, n'est-ce pas, il se tenait très droit face au public, et s'écriait « Vive la Drôme, vive la France !» Puis il se tournait vers la droite du conseil, et il ajoutait « Vive la République !» Et à ce moment-là, avec un joli mouvement du menton, il se tournait vers la gauche, et il terminait « Républicaine ». Ben, il avait inventé la République républicaine. Il fallait le faire, vous comprenez? Voyez-vous, voilà une très bonne histoire qui montre l'évolution même de ces mots hypocrites, avec des hypocrisies, n'est-ce pas, de degrés différents. Nous en sommes maintenant au second degré. Quand on parle de démocratie populaire, c'est incontestablement une hypocrisie au second degré.
Mais à travers cette hypocrisie, cette dérive des mots, est-ce que c'est la politique elle-même que vous mettez en cause?
Incontestablement, n'est-ce pas? Je mets la politique, ou plus exactement la puissance en cause, la volonté de puissance. Vous savez que c'est une de mes maraudes, c'est une de mes, comment dirais-je, de mes classifications préférées quant à l'emploi du vocabulaire. J'oppose la puissance à la connaissance. Et en effet, elle s'oppose, on n'y peut rien, n'est-ce pas? Il y a entre elles une transcendance. La puissance, au fond, comment la définir? C'est-à-dire le champ d'action qui prend pour champ d'action la politique. On ne peut pas la définir en disant autrement qu'elle s'exerce à travers la discorde, à travers des choix. Un homme politique est obligé de faire des choix. Il va de système clos en système clos, n'est-ce pas? En essayant, évidemment, de les élargir le plus possible. Obligé de faire des choix, il est forcément partiel. Et j'ajouterais qu'il est partial. Il vit dans la discorde, il vit dans les oppositions. Un homme politique sans ennemi, ça ne se conçoit pas. Il ne peut pas y avoir d'unité politique, n'est-ce pas? S'il y en a une dans un pays déterminé, s'il est petit, forcément il y a des ennemis extérieurs qu'on attaque, sans ça on ne pourrait pas subsister du point de vue politique. Au contraire, la connaissance ne connaît pas d'opposition. Elle ne connaît que des complémentarités. Et c'est tout à fait différent. Elle cherche partout la positivité de l'ennemi. Elle n'a pas d'ennemi. Elle transforme l'ennemi en collaborateur, n'est-ce pas? Elle se cherche tout le temps des complémentarités et non pas des oppositions. Elle cherche toujours à donner raison à l'autre, vous comprenez, ou à intégrer en elle l'autre, qui a tendance à s'opposer à lui. C'est tout le problème, n'est-ce pas?
Et c'est-à-dire qu'il y a entre... correspond à cette différence puissance-connaissance, une différence de type d'homme?
Oui et non, n'est-ce pas? Oui et non, parce que vous savez, chaque homme a en lui à la fois des facteurs de puissance et des facteurs de connaissance. Ils sont soit latents, soit patents. Ce qu'il faut, c'est sublimiser.
Vous êtes passé presque de l'un à l'autre.
Je suis passé de l'un à l'autre par une véritable conversion. Il s'agit de conversion, n'est-ce pas? Et contrairement à l'opinion courante, on ne se convertit jamais mieux que dans les défaites. Ce n'est pas du tout déshonorant de se convertir dans les défaites. Les défaites sont faites que pour cela. Il n'y a de défaite que du point de vue du passé et non pas du point de vue de l'avenir. Bah, je sais, je me suis converti parce que j'ai échoué complètement. Je me suis trompé complètement dans une certaine action politique, n'est-ce pas? J'ai mal évalué les forces en présence, les évaluant mal, tout en ayant fait des choix idéaux, bien entendu, au nom de grands principes. Là aussi, je me bourrais le crâne moi-même, bien entendu, n'est-ce pas? Il y a toujours une part de naïveté, même chez le cynique.
Car vous étiez cynique?
Non, je ne peux pas dire que je l'ai été. En tout cas, j'ai tellement échoué, n'est-ce pas, sur ce plan, que j'ai bien vu assez tôt que le résultat n'était pas atteint, ne pouvait pas être atteint, qu'il n'y avait pas d'efficacité dans mon cas, n'est-ce pas?
Dans une certaine mesure, vos échecs ont été votre justification ensuite?
Ah ben, mes échecs m'ont servi, en tout cas. Ils m'ont servi. Ils ont provoqué ma conversion, incontestablement. Si j'avais été flamboyant, n'est-ce pas, dans mes succès, il est bien évident que je n'aurais pas subi les secousses que j'ai subies et que je ne me serais pas posé des problèmes à moi-même, n'est-ce pas? J'aurais cultivé le succès. Tandis que là, j'ai analysé la défaite. Et sans prétendre faire, d'ailleurs, je dois dire, c'est une période très courte, sans prétendre faire de plaidoirie en ce qui me concerne, d'autodéfense, si vous voulez. J'ai passé 3 ou 4 mois à me poser des questions, à essayer de me disculper, si vous voulez, aux yeux des autres, pas à mes propres yeux. Mais après, j'ai trouvé ça déshonorant, n'est-ce pas? J'ai cessé d'essayer de me disculper, comprenez-vous?
Qu'est-ce que c'est que l'honneur par rapport à la politique?
C'est encore un de ces mots, voyez-vous, qui sont très difficiles à définir. N'oubliez pas Sainte Thérèse d'Avila, tenez, vous me posez la question, qui protestait énergiquement en Espagne contre l'idolâtrie du point d'honneur, n'est-ce pas? Cet honneur qui consistait à affronter des adversaires pour un oui, pour un non, n'est-ce pas? Mais cette idolâtrie du point d'honneur, qu'on a vu d'ailleurs en France fleurir dans les duels, n'est-ce pas, que finalement on a été obligé d'interdire, eh bien, pour moi, c'est véritablement l'excès même de la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est quand elle devient idiote, vous comprenez? Elle a le droit d'être intelligente, bien entendu, et Nietzsche l'a bien assez prouvé. Mais elle a aussi le droit de devenir idiote, elle le devient dans cette idolâtrie du point d'honneur, n'est-ce pas? Il y a maintenant un honneur, évidemment, qui est une passion, Mais je crois qu'il faut le dominer par l'intelligence. Or, malheureusement, il faut bien dire que la politique occidentale, depuis maintenant pas mal de temps, est devenue le domaine des passions et non pas le domaine de l'intelligence. Ça me paraît également très caractéristique. Les hommes politiques intelligents sont des hommes politiques désarmés, n'est-ce pas ? Ce sont des hommes politiques condamnés, même, on peut dire, d'avance.
Vous pensez à qui, par exemple ?
Non, vous ne pensez pas à donner de nom. Je serais obligé de polémiquer, ça m'ennuierait, ce n'est pas mon genre, n'est-ce pas ? Enfin, je pense à certaines condamnations, n'est-ce pas ? À mort, n'est-ce pas ? Qui ont frappé finalement l'intelligence, la souplesse intellectuelle, n'est-ce pas ? L'excès de souplesse intellectuelle, l'excès d'intelligence, le péché d'intelligence en politique ne pardonne pas. Il y a au contraire des pays où on a encore le droit d'être intelligent parce que la passion, étant donné la modestie de ces pays, leur caractère faible de puissance relativement faible, peut encore jouer. Je pense par exemple en Suisse. Mais en Suisse, il y a eu pendant la guerre un ministre des Affaires étrangères qui a été obligé d'avoir une politique de souplesse vis-à-vis des Allemands et des Italiens. Il était encerclé de toutes parts, n'est-ce pas ? Eh bien, il a mené non pas une politique de collaboration, pas du tout. Il a mené une politique de souplesse, de compromis. Inutile de vous dire que les Américains, en tant que peuple passionné, voyaient ça d'un mauvais œil. Mais en la libération, plus exactement, en la signature de la paix, en 1945, les Suisses ont remercié gentiment ce monsieur. N'est-ce pas ? En disant, cher monsieur, vous avez rempli votre rôle. Maintenant, vous allez céder la place à un ami de l'Amérique, enfin quelqu'un qui peut dire... Sans être mis en contradiction avec lui-même ou avec ses anciennes paroles, qu'il est un ami de l'Amérique. Puis on l'a flanqué dans un grand conseil d'administration, c'est tout, on l'a pas condamné à mort, vous comprenez, c'est tout le problème.
Si je vous comprends bien, vous êtes en train de faire là le plaidoyer de Pierre Laval.
Si vous voulez, oui. Pierre Laval est un homme que j'ai finalement plutôt respecté. Après l'avoir traité vraiment d'une façon extrêmement lamentable avant la guerre, n'est-ce pas, où j'ai crié Laval au poteau comme tout le monde. C'est pour vous dire combien, à ce point de vue-là, on change, ou en tout cas, combien j'ai changé.
Sur quelle base respectiez-vous Pierre Laval ?
Ben, le fait qu'il a épuisé ses forces, n'est-ce pas, dans un combat difficile avec les Allemands. Il a essayé de sauver le maximum. Il a vraiment essayé de sauver le maximum. Évidemment, c'est une politique de compromis. Il a essayé d'être un bouclier, si vous voulez, là où De Gaulle était une épée, n'est-ce pas ? Ben, je crois, moi, en toute honnêteté intellectuelle, qu'il faut à un pays un bouclier, qu'il lui faut aussi une épée, que les deux n'étaient pas inconciliables. J'ai pensé, ça a été mon erreur intellectuelle, n'est-ce pas, pendant la guerre, à la fin de la guerre, que ces deux politiques étaient complémentaires et non pas opposées. Comprenez-vous ? Ça a été ma grande surprise. Et ça a été une des raisons, d'ailleurs, un des facteurs de ma conversion. Ma grande surprise était de constater qu'on opposait le bouclier et l'épée, qu'on condamnait l'un au long de l'autre.
Mais par rapport à ce jugement global, le bouclier et l'épée, il y avait quand même autre chose chez Laval. Avec le recul de l'histoire, vous croyez que l'antisémitisme, par exemple, était une chose qui lui était tout à fait étrangère.
Laval, l'antisémitisme lui a été imposé. Il n'était pas dans sa propre nature. Il a sauvé des juifs, Laval, comme tout le monde, n'est-ce pas ? C'était pas dans sa nature profonde. Il occupait une place, n'est-ce pas ? Où réellement une assaise lui était imposée. Du point de vue des mesures qu'il était obligé d'accepter. Il y en a certaines qu'il a acceptées, qu'on a raison de lui reprocher, mais il ne pouvait pas faire autrement. Alors deux choses l'une, ou on accepte, n'est-ce pas, la position de bouclier, et le bouclier reçoit des coups, vous comprenez, bien entendu, ou on ne l'accepte pas. Cela dit, c'est d'un point de vue très général, n'est-ce pas, telle ou telle mesure forcément était critiquable, bien entendu, n'est-ce pas, mais dites-vous bien qu'il voulait céder un peu pour obtenir beaucoup, ça a toujours été la même chose chez lui.
En reprenant cette hypothèse, alors Brasillach, lui, vous le condamnez ?
Ah, je suis beaucoup plus, comment dirais-je, sensible à l'exécution de Laval qu'à celle de Brasillach, parce que vous m'obligez à dire des choses là que je dis, d'ailleurs, parce que je les pense très profondément, n'est-ce pas ? Brasillach est un homme qui, après son procès, si mes souvenirs sont exacts, n'a pas élevé de plainte en disant à ceux qui l'ont condamné, « Vous me faites ce que je vous aurais fait ». Comprenez-vous ? Il était parfaitement honnête en disant ça, il acceptait par conséquent d'être mis sur ce plan-là. Laval, lui, on lui a fait ce que lui n'aurait jamais fait. Vous comprenez la différence ? Selon moi, je me trompe peut-être, je ne suis pas dans la peau de Laval, bien sûr. N'est-ce pas ? Je n'ai jamais été, je ne souhaite pas y être, bien sûr. Mais j'imagine fort bien que Laval aurait pu dire honnêtement, tel que je le juge de l'extérieur, vous me faites ce que moi je ne vous aurais pas fait. Tandis que Brasillach a eu le courage énorme, n'est-ce pas ? Dramatique, pathétique de dire, vous me faites ce que je vous aurais fait.
Par rapport à cette définition de la puissance politique, de l'homme politique, la distinction droite-gauche pour vous n'a aucun sens ?
Elle a un sens en politique, elle n'en a pas pour moi. Elle n'en a pas pour moi, puisque si vous voulez, elle en a un, bien sûr, dans la mesure où j'étudie les choix politiques, je suis bien obligé de savoir ce qu'ils cachent, n'est-ce pas ? Mais il est incontestable qu'aujourd'hui, notamment, la différence verticale que j'établis entre la puissance et la connaissance l'emporte de loin entre la différence horizontale qui s'établit entre la droite et la gauche. D'ailleurs, vous savez, ces distinctions aujourd'hui sont réellement presque caricaturales quand on pense à ce qu'elles étaient il y a encore 50 ans en France, n'est-ce pas ?
Est-ce que par la voie de la puissance, il est impossible d'aboutir aux mêmes conclusions que par la voie de la connaissance ?
Ah, je crois qu'il y a un saut que la puissance ne peut pas faire, sauf quand elle se renonce elle-même. Quand elle se renonce elle-même, la puissance, évidemment, devient puissance intérieure. Elle se sublimise, mais à l'état de puissance intérieure, de même que... je vous donner encore une comparaison que j'ai déjà faite devant vous, sauf erreur. C'est la même chose que les rapports entre sexes, n'est-ce pas? Les rapports entre l'homme et la femme sont sur un plan horizontal. Il y a un plan là de correspondance, n'est-ce pas? Je ne dis pas égalitaire, mais enfin de correspondance bilatérale d'ailleurs entre l'homme et la femme. Et le problème est pour l'homme de transformer cette transcendance horizontale en transcendance verticale, c'est-à-dire de développer en lui, de faire naître d'abord et de développer en lui une féminité intérieure. Tout le problème de l'homme, c'est de devenir une femme. C'est le problème du Christ, c'est le problème de Jésus. Jésus, devenant Christ, finalement, élève sa féminité intérieure. Et dit à sa mère, qu'ai-je à faire avec vous?
Est-ce que le problème de l'homme politique est de devenir un sage?
Ah ben, écoutez, est-ce qu'il en a le temps, d'abord, n'est-ce pas? Il faut d'abord que cet homme-là ait le temps de cette véritable conversion. Je ne crois pas à l'homme politique sage, en Occident. En Occident, j'entends bien, hein, mais tout ce que je dis est valable pour l'Occident, parce que pour l'Orient... l'Orient traditionnel, qui est quand même une région biologiquement moins avancée, disons-nous moins excitée que l'Occident, le prêtre, le roi et le prêtre peuvent se fusionner dans la même personne. En Occident, selon moi, tant qu'il s'agit de l'Occident, c'est-à-dire du pays biologiquement avancé, n'est-ce pas, et politiquement dynamique du monde, à un instant donné de l'histoire, le prêtre et le roi ne peuvent pas coexister. Chaque fois qu'en Occident, il y a la tentation théocratique s'est donné libre cours, c'est-à-dire lorsque le prêtre a voulu se faire roi ou le roi a voulu se faire prêtre dans une seule et même personne, ça a été catastrophique. Il y a eu un déchaînement de passion et un déchaînement de sang, n'est-ce pas, et de désastre. Faites le compte, vous avez l'exemple des Templiers, vous avez l'exemple des Chevaliers Teutoniques, je ne parle pas de Jeanne d'Arc, c'est différent, mais vous avez l'exemple, tenez, de l'absolutisme des rois, n'est-ce pas, de l'église gallicane, ça a très mal tourné, ça a été le commencement du déclin de la royauté française. Vous avez la religion anglicane de Henri VIII qui a voulu se créer d'une façon autonome, et bien, de ce fait, l'Angleterre s'est sortie de l'Occident. Du jour où Henri VIII a été le chef de l'église anglicane, où le roi a été par conséquent le pape, le prêtre, il s'est passé une chose extrêmement frappante, c'est que l'Angleterre est devenue non occidentale, elle était extramondaine par rapport à l'Occident. Elle a joué un rôle par conséquent de division en Occident. À ce moment-là, elle s'est réfugiée chez elle, et elle a vécu dans une sorte d'extramondanéité, pour parler en langage philosophique, qui a fait qu'au fond, elle n'a pas participé à la politique de l'Occident, sauf pour y exacerber les antagonismes.
Vous ne participez plus non plus à la politique, vous êtes réfugié dans la connaissance, mais à qui, en France, aujourd'hui, confier la politique, si des gens comme vous ne s'y intéressaient
pas? Ah, mais ça, la politique n'a pas besoin qu'on lui confie des gens, on l'en trouve toujours, vous savez, c'est la vieille question, si tout le monde faisait comme vous, si tout le monde se réfugiait dans sa tour d'ivoire. Mais c'est un problème qui ne se pose pas. Tout le monde ne se réfugie pas dans sa tour d'ivoire, il y a toujours des candidats au pouvoir, il y en a même plus qu'il en faut. Assez pour qu'ils se battent entre eux, vous comprenez? Du point de vue de la réalité effective, on ne manquera jamais de bras pour se battre, vous comprenez? Je n'ai à ce point de vue-là, réellement pas de scrupules à m'isoler. La connaissance actuellement ne peut que s'isoler. C'est provisoire d'ailleurs, n'est-ce pas? Parce qu'il est certain qu'à certaines autres époques, aux époques de Renaissance par exemple, la connaissance revient sur le devant de la scène et elle obéit aussi à la tentation de devenir institutionnelle et par conséquent de créer des organismes, n'est-ce pas, de direction, cléricaux ou autres. Et c'est le commencement de son déclin d'ailleurs. C'est un fait. Du jour où, dans un pays avancé, dans un Occident, notamment dans l'Occident avancé, puisqu'il ne peut être que tel, n'est-ce pas, il ne peut que cultiver les dualités. L'Occident. Dans une telle situation historique, lorsque la cléricature se veut institutionnelle, elle se donne des règles, elle se donne des disciplines, elle crée des impératifs, elle devient morale, et non, elle cesse d'être métaphysique pour devenir morale et régenter les mœurs. On peut dire qu'à ce moment-là, la connaissance connaît une nouvelle crise, n'est-ce pas? Elle commence à dégringoler.
Vous disiez tout à l'heure que la situation actuelle était provisoire. Vous croyez donc aux cycles historiques?
Ah, je crois, oui, très, très fondamentalement, très, très, très fermement, oui, aux cycles historiques. Je crois que nous sommes dans une période terminale pour l'Occident actuel, n'est-ce pas? Et que tout ce que nous faisons aujourd'hui est préparatoire en vue d'une disparition, premièrement, et puis d'une renaissance, d'autre part, secondement.
Merci Raymond Abelio.